peinture est plus forte que moi, elle me fait faire ce qu'elle veut. Picasso. Mille ans d'histoire. La peinture est plus forte que moi, disait-il, elle me fait faire ce qu'elle veut. Depuis ses premiers pigeons qu'il dessinait à Malaga à l'âge de 9 ans, jusqu'au corrida de ses derniers tableaux, en passant par les Demoiselles d'Avignon et Guernica, Picasso n'a jamais cessé de peindre des tableaux qui ont bouleversé l'histoire de l'art et ont fait de lui, de son vivant, le peintre le plus célèbre et le plus riche de son temps. Mais l'argent l'intéressait moins que son œuvre. Il lui permettait simplement de peindre librement, sans les difficultés et la misère qu'il avait connues et partagées dans sa jeunesse, avec ses amis du bateau Lavoir. Cette maison de la butte Montmartre, qui était le rendez-vous de ce qu'on appelait la bande à Picasso. De jeunes peintres et écrivains fauchés, qui s'appelaient Max Jacob, Utrillo, Modigliani, Apollinaire ou André Salmon, et la compagne de Picasso, Fernande Olivier.
L'hiver, d'une façon plus que simple, dans un atelier, le fameux atelier du bateau Lavoir, qui n'avait rien de fascinant, près de croire, c'était pas pittoresque du tout. Une grande chambre de pauvres. Dans cet atelier misérable, j'ai vu un homme vêtu de bleu, le bleu des ouvriers parisiens. Ce jour-là, il avait un pinceau d'une main et une bougie de l'autre.
J'ai connu Picasso vers 1902 ou 3. Picasso habitait sous la Grand Porte, l'atelier au rez-de-chaussée au fond, et moi j'habitais un atelier sur la place. Et naturellement, j'étais assez jolie fille. Tous les peintres, tous les Espagnols me regardaient par les entrées. Et un jour, Picasso, il est venu vers moi, et comme il commençait à pleuvoir, je suis entrée chez lui. Nous avons vécu là, tant bien que mal, avec beaucoup de monde, Apollinaire, Salmon, Max Jacob, naturellement. La table était ouverte. Avec 3 francs, je faisais la tambouille pour tout le monde.
Quelle est jolie la butte au pinceau du trio. Petite âne qui rêve au bleu de Picasso.
Marie-Laure Bernadacq, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes historienne de l'art, spécialiste de Picasso et commissaire de l'exposition Picasso et les maîtres, qui se tient en ce moment à Paris jusqu'au 2 février prochain. Une exposition, ou plutôt 3 expositions d'ailleurs, dans des lieux différents, qui présente côte à côte les peintures de Picasso et celles des peintres qui les ont inspirées. Car curieusement, à vous lire et à voir cette exposition, on sent que ce peintre révolutionnaire était très attaché, au fond, à des traditions, à des peintres très classiques qu'il allait chercher très loin dans le temps.
Oui, c'est un peu un paradoxe et c'est le but de cette exposition, c'est de montrer que Picasso, qu'on a longtemps considéré comme un iconoclaste, un destructeur, un révolutionnaire, a aussi un pied depuis toujours ancré dans la tradition. C'est un amoureux de la grande peinture et cette exposition essaye de montrer comment tout au long de sa vie, de ses premiers dessins académiques jusqu'à la dernière période d'Avignon où reviennent les figures de Rembrandt et de Velázquez, il a regardé la peinture du passé, tâchant même de rivaliser avec cette peinture.
Et peinture à laquelle il doit justement son inspiration, de même aussi qu'une personne importante, évidemment, c'est son père qui l'a initié à la peinture et au dessin, car lui-même, le père, José Luis Blasco, était peintre.
Oui, et d'ailleurs, dès la première salle consacrée à tous les peintres, à ses premiers maîtres qui inaugurent donc l'exposition, ma collègue Anne Baldassari, qui est également commissaire de l'exposition, a beaucoup tenu à ce que figure son premier maître, c'est-à-dire son père. Donc son père, comme vous le rappelez, était un peintre un peu ce qu'on appelait un peintre de salle à manger, c'est-à-dire qu'il peignait essentiellement des pigeons, mais très vite, il a demandé à son fils de dessiner les pattes des pigeons, d'où les premiers petits dessins très émouvants. Et quand il a vu le génie de son fils, la légende raconte qu'il aurait abandonné de peindre, qu'il aurait cessé de peindre en lui donnant palette et pinceau, comme on donne l'alternative à un jeune torero d'une certaine façon.
Extraordinairement précoce, il disait lui-même, il est conscient de l'être, il disait lui-même, à 12 ans je peignais comme Raphaël.
À 12 ans je dessinais comme Raphaël et il m'a fallu toute ma vie pour apprendre à dessiner comme un enfant. D'où dans l'exposition la présence assez rare de ses premiers dessins académiques. Car comme tout peintre du 19e, rappelons que Picasso est né en 1981, faisant son apprentissage dans les académies d'abord de Madrid puis de Barcelone, en passant par la Corogne. Il dessine d'après les plâtres antiques, il fait un dessin classique, académique, et on voit déjà son génie, la façon dont il rend le modelé. Et cette veine classique ne le quittera pas.
Oui, on la retrouve d'ailleurs avec, classique, disons que c'est pas ce qui le distingue des autres, mais les périodes bleues, les périodes roses, c'est-à-dire les débuts du Picasso quand il commence à se faire connaître à Paris, hein, dans la misère, d'une misère, on l'a entendu, qu'il partage avec sa compagne, qui est Fernande Olivier, et avec tous ces peintres du bateau Lavoir. Il est relativement peu connu, on achète assez peu ses peintures, mais on le remarque quand même grâce à des gens comme Gertrude Stein, le marchand d'art Ambroise Vollard et puis Daniel-Henri Canveller, qui en 1907 découvrait dans l'atelier de Picasso un tableau révolutionnaire, Les Demoiselles d'Avignon. On écoute Daniel-Henri Canveller.
Il y avait un très grand tableau, le tableau qui depuis a été appelé Les Demoiselles d'Avignon. J'étais stupéfait d'abord, ébloui ensuite. Il me paraissait que là, quelque chose se passait d'inouï, d'extraordinaire, d'admirable. Je devais être un des très rares qui avait cette impression-là. Il faut bien que je vous dise l'affreuse solitude morale dans laquelle Picasso a été à cette époque-là. Aucun de ses amis peintres le suivait. J'ai su plus tard que Braque, qui a vu le tableau, je pense par Apollinaire, en parlait en disant qu'il lui semblait de peindre de cette façon-là. C'était comme si l'on buvait du pétrole pour cracher du feu. Et Dorin m'a dit à moi-même qu'on trouverait Picasso pendu un jour derrière ce grand tableau. Vollard, qui avait acheté ses œuvres, n'en achetait plus. Picasso était seul, affreusement seul.
Et c'était Daniel-Henri Canveller, donc le marchand d'art en 61, racontant cette découverte de ce tableau qui marque un tournant, bien sûr, dans l'œuvre de Picasso, mais aussi dans l'art du XXe siècle, Marie-Laure Bernadac.
Oui, ce tableau, c'est vraiment Picasso.
Qu'est-ce qu'il avait d'inouï, comme le disait Canveller ?
Alors, d'abord, en effet, c'est un tableau que personne n'a compris à l'époque, un tableau un peu maudit. C'est un peu ce qu'on appelle le grand saut dans l'inconnu. Picasso, après, comme vous l'avez rappelé, fait la période bleue, très influencée par le Gréco, par ses figures allongées, la période rose où il retrouve une forme de classicisme, d'archaïsme, découvre l'art nègre, découvre l'art primitif, découvre aussi les statuettes ibériques. Et se lance sur ce tableau qui est préparé par des études de femmes, encore assez cézanniennes.
Qui ne sont
cubistes.
Ni des demoiselles, ni d'Avignon. En fait,
c'était
des prostituées
de
la rue d'Avignon.
Prostituées de la rue d'Avignon de Barcelone. Oui. Il l'appelait lui-même le bordel philosophique, hein, ce tableau. Donc déjà, il y avait cette idée de bordel, c'est-à-dire de mélange de genres, de mélange d'influences, parce qu'on retrouve aussi bien des influences du bain turc que de Ingres, que des influences primitives, archaïques. On a dit souvent que c'est un tableau inachevé et c'est surtout un tableau d'exorcisme, au vrai sens du terme. C'est-à-dire que Picasso, à travers ce tableau, essaie d'exorciser la peur de la syphilis. Parce que la première composition de ce tableau, on voit Picasso lui-même et un étudiant en médecine qui tient un crâne dans sa main. Donc il y a cette idée d'associer l'érotisme, donc la fréquentation des prostituées et la mort possible. Finalement, il illumine l'anecdote, le marin qui était Marc Jacob, le jeune étudiant en médecine, il illumine tous les hommes et on ne voit que ces femmes debout dans un bordel avec un rideau et une nature morte au premier plan.
Enfin, on les voit sans les reconnaître, vous étiez Ingres. Ce qui est étonnant, c'est qu'elles ne ressemblent plus du tout à quoi que ce soit. C'est le début du cubisme, en fait.
C'est le début du cubisme, mais ça va même plus loin que le cubisme. C'est un tableau quasiment expressionniste, quand on voit ces formes très anguleuses, très torturées, et surtout ce mélange des styles picturaux à l'époque. C'est un tableau donc, que Picasso a longtemps laissé caché, qui a été acheté après par le collectionneur Jacques Doucet, proposé à l'État français qui n'en a pas voulu, et hélas, parti aux États-Unis, et c'est maintenant un fleuron du Musée d'art moderne de New York. Et c'est un tableau qui reste une référence pour tous les peintres et même les peintres contemporains.
C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il devient célèbre, qu'il sort de l'anonymat, même s'il est très critiqué, d'ailleurs, par son propre entourage, on l'a entendu, hein, notamment Braque. Et pourtant, c'est avec ce tableau qu'il va vraiment, qu'il a trouvé, on peut le dire, son style, si on peut dire, d'ailleurs, parce qu'il en aura plusieurs, hein, des styles, vous le rappelez. Alors, il quitte le bateau Lavoir, il commence vraiment à vendre bien ses peintures, il quitte aussi Fernande Olivier, et puis il va vivre désormais successivement ou simultanément avec d'autres femmes, Eva Gouel, Olga Koklova, qu'il épouse en 1918, Marie-Thérèse Walter, Dorama. Le rôle, la place des femmes semble très important dans, non seulement dans la vie, mais dans l'œuvre de Picasso.
Oui, on dit souvent, un peu comme une boutade, qu'à chaque fois qu'il changeait de femme, il changeait de style. Mais c'est assez vrai. Dans la mesure où Picasso peint et que son art est totalement nourri de sa vie, des événements quotidiens, des événements biographiques, aussi des événements politiques, je pense qu'on en parlera, mais tout ça étant mélangé, il met dans un tableau tout ce qu'il aime. Donc quand il vit avec une femme qui lui inspire un certain style de vie, un certain style, comme par exemple le style très classique, néo-ingresse, néo-classique que lui inspirera Olga, toute sa vie et son art sont étroitement liés. Donc on verra qu'à chaque fois, en effet, qu'il y a une nouvelle compagne, pas seulement la compagne, mais ça veut dire un nouveau style de vie, un nouveau intérêt, un nouveau contexte culturel. Forcément, sa peinture en est imprégnée.
Et avec Dora Maar, rencontrée en 1936, eh bien, c'est la peinture engagée dans laquelle, si je puis dire justement, il s'engage. C'est au début de la guerre d'Espagne, avec le bombardement d'une petite ville basque qui allait inspirer à Picasso le plus célèbre de ses tableaux.
À Guernica, la ville sainte, les habitants se réunissaient autour de l'arbre qui symbolisait les libertés du pays. Aujourd'hui, Guernica n'est plus qu'un amas de ruines.
La camarade Vandal, qui arrive de Guernica, veut vous parler.
Compagnons, il faut prendre les armes, non pas sa reine. Ils ne passeront pas.
L'exposition de Picasso, sympathisant du gouvernement espagnol, montre la destruction de Guernica et l'agonie de ses habitants.
Et ce tableau, Marie-Laure Bernadac, vous dites que Guernica, que tout le monde connaît, c'est peut-être le premier tableau que l'on cite quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il a bien pu peindre, c'est évidemment Guernica. Vous dites quelque part, dans un livre d'ailleurs qui a été publié, réédité chez Gallimard Découverte, c'est le plus grand tableau du XXe siècle.
Tableau d'histoire, et d'ailleurs c'est le dernier tableau d'histoire, parce qu'à l'époque au XXe siècle, on ne peignait plus de tableaux historiques à sujet historique. Et l'histoire n'est pourtant pas directement présente dans Guernica. Il faut rappeler qu'en fait, au départ, Picasso avait reçu la commande de la République espagnole pour l'exposition universelle de 1937, de faire un très grand tableau qui figurait dans ce pavillon construit par José Luis Sert. Et sa première esquisse, était un grand tableau sur le thème du peintre et son modèle, un thème essentiel de l'histoire de la peinture que Picasso a peint de multiples fois. Donc on les a au musée Picasso, des dessins. On voyait le peintre devant son chevalet et un modèle. Il apprend le drame de Guernica, qu'il apprend par les journaux, et immédiatement il réagit, il change complètement cette idée de peintre et son modèle, et peint une première esquisse, qui est maintenant au musée du Prado, qui est un cheval mort. Un cheval mort, donc tout de suite la corrida. Parce que pour lui, peindre la guerre, c'est jamais peindre directement la guerre. C'est le peindre avec sa peinture, avec son histoire personnelle. Et ce qui le touche le plus profondément, c'est toujours la corrida. C'est la tauromachie, c'est le combat du taureau et du cheval. D'où la présence dans ce grand tableau d'un taureau au centre, d'un cheval blessé agonisant, mais d'autres références, une femme à la chandelle qui vient de tableaux anciens aussi, de Prudhon, des enfants criant, une maison en flammes. Là aussi, c'est étonnant, c'est devenu le tableau lié à Guernica, puisqu'il lui donne ce titre. C'est en noir et blanc à la fois, comme les photos de presse, comme ce qu'il a pu voir dans les journaux. Ça a été peint. Et Dora Maar en a fait toutes les étapes successives aux Grands Augustins, à Paris, et c'est un tableau de révolte contre l'horreur de la guerre.
La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements, disait-il, c'est un instrument de guerre, donc c'est vrai que ça a joué un rôle considérable dans le soutien à la République espagnole du temps où elle s'opposait à Franco et à ses alliés, car ce sont les Allemands qui ont bombardé Guernica. Et en fait, c'était aussi un des plus grands tableaux de la tragédie de la guerre, depuis Goya. Hein.
Oui, c'est un tableau universel, absolument. Il y a du Goya, du 13 des maillots, bien sûr, on retrouve aussi cette influence, comme Manet, après, a lui-même repris Goya, et lui-même se sert cette ampoule électrique au milieu, cette lanterne qui éclaire donc toute la scène tragique. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que Picasso est un peintre profondément engagé. D'où son adhésion après au Parti communiste. Son engagement vis-à-vis des réfugiés espagnols qu'il a aidés, de la République espagnole, est vraiment très entier. Dès le début, Picasso est lié jeune à Barcelone à des mouvements anarchistes. Et toute sa vie, malgré le succès, malgré l'argent dont vous avez parlé, malgré parfois une vie mondaine, l'engagement est très profond chez lui.
Et pourtant, pendant l'occupation, il est à Paris. En fait, il était à Royan au début de l'invasion allemande. Et puis, il est à Paris. Il est rue des Grands Augustins. Il continue.
Malgré parfois une vie mondaine, l'engagement est très profond chez lui.
Et pourtant, pourtant, pendant l'occupation, il est à Paris. En fait, il était à Royan au début de l'invasion allemande, et puis il est à Paris, il est rue des Grands Augustins. Il continue, il est à Paris. En fait, il était à Royan au début de l'invasion allemande, et puis il est à Paris, il est rue des Grands Augustins. Il continue de peindre et résister, pas plus qu'il n'ait collaboré, bien sûr. On ne l'a pas vu avec quelques peintres partir en Allemagne.
Et ni aux États-Unis comme beaucoup. Ouais. Donc sa façon de rester comme Matisse, comme Braque, comme certains étaient, il faut vivre avec, comme tout le monde, avec les difficultés de la guerre, être là et continuer à peindre.
Alors il rencontre en revanche une nouvelle compagne, hein, Françoise Gilot, avec laquelle il est au moment où Paris est libéré en 1944. Il participe cette année-là également au Salon d'automne qui est consacré aux œuvres interdites pendant l'occupation et adhère aussi au Parti communiste auprès duquel, 5 ans plus tard, il allait mettre son art au service du Congrès de la paix.
Nous avons la chance d'avoir à côté de nous Pablo Picasso. Pablo Picasso qui sera représenté au Salon d'automne par un important envoi. Maître, c'est bien la première fois que vous exposez
au Salon
d'automne.
C'est la première fois que j'expose au Salon d'automne.
Et combien aurez-vous de toiles exposées ?
74.
Est-ce que je puis vous demander si vous êtes content d'exposer pour la première fois et de célébrer ainsi notre libération à tous ?
Je suis content comme on n'a jamais été plus content.
Picasso ne renoue jamais avec son propre passé. Entouré dans son atelier des membres du comité France-Espagne, il prépare une révolution qui est sa propre révolution, sa révolution continue.
Aragon est venu rendre visite à Pablo, a vu la lithographie du pigeon.
François Gilot.
Il a dit, mais c'est absolument ce qu'il nous faudrait, et nous allons avoir un congrès de la paix au printemps, je ne sais plus, en avril, et voilà exactement l'emblème qu'il nous faut, c'est la colombe de la paix. En effet, cette colombe a apparu sur tous les murs de Paris pour le congrès de la paix en 1949, qui s'est trouvé coïncider exactement avec la date de la naissance de ma fille, qui s'est donc appelée Paloma, parce qu'elle était née le jour de ce fameux pigeon transformé en colombe.
C'est pour le congrès de la paix que je suis venu.
Il était un homme oiseau qui cueillit le monde rond, l'ouvrit de ses doigts pipeaux, l'enfouit dans son œil citron. Puis déshabilla les dieux, les fit danser dans les bois, les croqua de ses dents bleues, les énivra de hautbois. Picasso, Colombe ou Laurier, Figuernica, la mort aux cordes, pour que dans un monde sans bornes, la nuit ne vienne plus jamais, la nuit ne vienne plus jamais.
Picasso, Colombe, une chanson de Jean Ferrat évoquant justement cette fameuse colombe qui a servi d'emblème au Congrès de la paix en 1949 et au Parti communiste auquel il adhérait dès 1944. Là, ce n'est pas seulement un engagement par la peinture, c'est un engagement d'ailleurs auquel il restera fidèle.
Il restera fidèle parce que le Parti, c'est comme une famille. Quand on rentre dans une famille, on a beau ne pas être d'accord avec eux, être brouillé, on fait partie de la famille, donc on ne les quitte pas. Il était évidemment déchiré entre toutes l'esthétique un peu réaliste-socialiste que lui demandait le Parti, d'un art très facile, qui plaise à tout le monde, qui plaise aux ouvriers, qui a un langage politique évident. Picasso n'a jamais voulu céder. Parfois, quand il a donné la colombe un petit peu par hasard, parce qu'en disant c'était un beau symbole, après quand il a fait ce fameux portrait de Staline qui a été si mal compris et refusé. Donc ce portrait,
oui, c'était à l'occasion de la mort de Staline, il faut le préciser.
En 53,
ou alors il dessine un Staline jeune.
Hein, d'après une photo.
D'après une photo, mais alors ça a provoqué un scandale dans le parti lui-même.
Oui. Alors là, Picasso était assez furieux, donc il a fallu l'intervention d'Aragon, de Pierre Dex, qui raconte ça très bien. Parce que Pierre Dex,
mais Aragon l'a critiqué lui-même dans les colonnes de l'Humanité.
Bien sûr, tout le monde a critiqué. Mais on ne peut pas demander à Picasso de faire autre chose que ce pour quoi il est fait. Je veux dire, c'est un artiste qui se veut libre, peindre, comme il le dit, vous l'avez rappelé, il peint avec la peinture. Enfin, son instrument de lutte, c'est la peinture, c'est l'art. Il est totalement engagé dans son art et il ne cède à aucune pression. Il peindra cependant en 53 un tableau très important, les massacres de Corée, là avec un engagement très clair contre les Américains, décrivant très précisément aussi les massacres des populations civiles. Ce tableau qui est maintenant au musée Picasso, qui est aussi une allusion aux 13 des maillots de Goya, puisque là on voit vraiment la population mitraillée par des guerriers, par des soldats. C'est vraiment une concession d'une certaine façon au langage réaliste socialiste. Et c'est un tableau qui a aussi été mal compris. Donc c'est très difficile à vivre pour lui, mais il ne rendra jamais sa carte malgré...
Oui, mais en même temps, il avale toutes les couleuvres possibles et imaginables, justement, en restant dans le parti. Malgré tout, il lui reste fidèle.
Où il se battra sur d'autres plans, il signera d'autres pétitions, il se battra ailleurs, il se battra avec sa peinture, mais restera fidèle au Parti communiste.
Absolument. Et alors fidèle aussi à ses maîtres. Là, on en revient à cette exposition. À partir de 1953, il se lance dans une œuvre assez considérable, tout à fait extravagante, qu'on n'a jamais vue auparavant, ce que vous appelez la peinture de la peinture, c'est-à-dire qu'en fait, il peint les œuvres qui l'ont marqué, mais en les transformant complètement. Hein. C'est le cas, par exemple, des femmes d'Alger, de la Croix, c'est le cas de la petite infante d'Espagne, de Velázquez.
Alors, en effet, dans les années 50, commence ce cycle qu'on appelle les variations d'après les maîtres, même si, on le voit dans l'exposition, toute sa vie, il a été influencé directement ou indirectement par certains tableaux du passé. Là, il entreprend une entreprise à la fois de destruction et de reconstruction des chefs-d'œuvre qu'il aime sur une série de toiles. 15 d'après les femmes d'Alger, qui sont présentées actuellement au musée du Louvre, une cinquantaine d'après le célèbre tableau de Velázquez, Les Ménines, qui sont présentées au Grand Palais, et plus d'une vingtaine d'après le célèbre tableau de Manet, Le Déjeuner sur l'herbe. Alors, ce qui est intéressant, c'est la date aussi. Dans les années 50, Picasso a 70 ans. Il est maintenant, après la mort de Matisse, le seul peintre à continuer à faire de la figuration, à être dans la lignée de la grande tradition, de la grande peinture. Alors, on a dit à une époque qu'il cherchait des sujets, que justement, se retourner vers les tableaux du passé était peut-être une sorte d'impuissance à trouver de nouveaux sujets.
Vous parlez de cannibalisme, Marie-Laure Bernadette.
Parce qu'en effet, il digère ses tableaux pour les faire siens. Ça, Picasso a toujours été très superstitieux et croit vraiment au pouvoir anthropophage, c'est-à-dire qu'on peut s'incorporer le pouvoir des grands maîtres ou des gens qu'on aime en digérant leur production, donc ici leurs tableaux. Mais en même temps, ce sont des tableaux qu'il a toujours admirés. À chaque fois qu'il va au Louvre, il va voir Delacroix, François Gillot le raconte. Et s'il commence cette série en 54, dès 1940, justement quand il est à Royan pendant la guerre, il dessine les femmes d'Alger de mémoire.
Alors une expérience unique, comme celle d'ailleurs que Picasso allait faire en 1959 en se laissant filmer, en train de peindre par Henri-Georges Clouzot.
Ce qui est impossible pour la poésie et la musique est réalisable en peinture. Pour savoir ce qui se passe dans la tête d'un peintre, il suffit de suivre sa main. Le peintre avance en tâtonnant comme un aveugle dans l'obscurité de la toile blanche. Pour la première fois, ce drame quotidien et confidentiel de l'aveugle de génie va se jouer en public, puisque Pablo Picasso a accepté de le vivre aujourd'hui, devant vous, avec vous. Alors, en noir ou en couleur?
En couleur, c'est plus drôle.
Et qu'est-ce que tu fais?
N'importe quoi.
Comme d'habitude? Tu es prêt?
Oui.
Moteur. Ça tourne.
La nuit tombe. La lune, les étoiles, une étoile filante.
Il y a une chose qui m'embête, c'est que le public va avoir l'impression que tu as fait ça en 10 minutes.
J'ai travaillé combien de temps?
5 heures.
Eh bien, maintenant, tout le monde le sait.
Et c'était un extrait du Mystère Picasso d'Henri-Georges Clouzot, où l'on voit le maître en train de peindre à travers une vitre transparente. Et alors, on l'entend dire, Clouzot lui demande « qu'est-ce que tu fais ?» Il répond « n'importe quoi ». On a souvent accusé Marie-Laure Bernadette Picasso d'être un peu une espèce de charlatan à la fin de sa vie, se contentant de signer, de peindre très vite et de signer quelque chose, sachant que sa seule signature pouvait rapporter beaucoup d'argent.
C'est un peu une légende, hein, bien sûr. Quand il dit « n'importe quoi », ça veut dire que de toute façon, ce qui compte, c'est pas le sujet, c'est la façon de le peindre. Donc n'importe quoi, c'est-à-dire il peut peindre la page de la Garoupe qui se transforme, il y a une métamorphose successive des sujets. Ce qui l'intéresse, c'est cette confrontation avec la toile blanche et le tableau, qu'est-ce qui va en sortir. Cette histoire de la signature aussi, elle va dans les deux sens. Il est arrivé à Picasso pour des raisons vraiment de pure générosité, de signer des œuvres pour des amis, pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Quand il était avec Braque au moment du cubisme, aucun des deux ne signait. Donc c'est vrai que Picasso a beaucoup d'humour, de distance, d'ironie par rapport à ce phénomène marchand de la signature, de l'argent. Et il y a toujours un double jeu entre une très très grande générosité et la signature, c'est son tableau. Il n'a pas besoin de signer d'une certaine façon.
Je ne sais plus, je crois que c'était au temps du bateau Lavoir. Il signait sur la nappe du restaurant. Et un jour, il y a un serveur qui dit il dessinait. Et puis le serveur lui dit mais mettez votre signature. Il dit vous pensez, je ne vais pas quand même acheter le restaurant ou payer le restaurant à tout le monde. Et alors, peignant aussi des peintures extraordinaires, à la fin de sa vie, par exemple, il a plus de 80 ans, toute une série de tableaux sexuellement explicites et qui ont été exposés à Avignon en 70. Bon, c'est assez étonnant.
Oui, ce qui est extraordinaire,
certains diraient, et d'ailleurs, elle a dit à l'époque, c'est pornographique.
Je ne sais pas si on a dit que c'était pornographique tellement.
C'était en tout cas, très... c'était explicite.
Certaines gravures, celles qui étaient exposées à la galerie Léry sur le peintre et son modèle. Mais c'est ce dont on parlait au début, c'est qu'à la fin de sa vie, il y a une sorte de libération. Picasso a libéré des maîtres, libéré du passé. Il leur a réglé leur compte avec ses grands cycles de variation d'après les maîtres. Et il retrouve une espèce de spontanéité de peinture, une peinture instinctive, sans aucune règle, sauf les lois de la peinture, d'où cette phrase « la peinture est plus forte que moi ». C'est ça que ça veut dire. C'est la peinture quasiment organique. Elle est le corps de la femme qu'il pénètre, d'où cette métaphore du pinceau comme phallus d'une certaine façon. Et donc c'est la série des grands nus de la fin, mais des baisers, des coupes, mais aussi des hommes déguisés en mousquetaires, en matadors. Et c'est un renouveau du langage pictural figuratif.
Et exposé de son vivant, y compris au Louvre, je crois que c'était un an avant sa mort. Ça ne s'est jamais produit au Louvre, on n'a jamais vu ça.
Oui, il y a eu un hommage du vivant de Picasso pour ses 90 ans dans la Grande Galerie. On a décroché certains tableaux de la Grande Galerie pour montrer les 10 tableaux qu'il avait donnés au Musée d'Art Moderne.
Et il est mort un an plus tard, en 1973. Qu'est-ce qui reste de lui, lui qui n'a pas il n'appartenait à aucune école.
Oui, il disait lui-même qu'il était un peintre sans style, que s'enfermer dans un style, c'était vraiment se tuer. Je crois qu'il reste l'enthousiasme de la peinture. Il a fait le passage, il a justement dit « qu'est-ce qu'elle fera la peinture quand je ne serai plus là ? Il faudra bien qu'elle me passe sur le corps. » Et je crois que cette phrase est très importante, c'est-à-dire Picasso était une sorte de passage obligatoire entre la peinture de la Renaissance, passant par Manet, passant par toutes les...
Marie-Laure Bernadac, je signale, pour en savoir plus, que vous venez de publier « Picasso et les maîtres anciens », publié chez Gallimard, et puis en collaboration avec la Réunion des musées nationaux dans la collection « Découvertes hors série », ainsi que « Picasso, le sage et le fou », écrit avec Paul Debouchet et qui a été réédité donc chez Gallimard, toujours dans la collection Découverte. À lire aussi Picasso de Gilles Plasy, publié également chez Gallimard, et La bande à Picasso, un beau livre de David Reynal qui vient de paraître aux éditions Ouest France. Enfin, il faut voir impérativement l'exposition Picasso et les maîtres aux Galeries nationales du Grand Palais, au Musée du Louvre ainsi qu'au Musée d'Orsay à Paris, et cela jusqu'au 2 février 2009. Vous avez pu entendre des extraits du film Le mystère Picasso d'Henri-Georges Clouzot et du documentaire 13 journées dans la vie de Picasso, un film de Pierre Dex, Pierre Philippe et Pierre-André Boutan, tous deux édités en DVD chez Arte Vidéo et RMN. Vous pouvez retrouver une bibliographie plus complète encore en téléphonant au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Franck Olivard et Marie Jarros. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, en partenariat avec l'Atlas des migrations, la route de la soie.